au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Le Dieu chrétien s'est incarné, et depuis 2000 ans, Dieu se dit par la théologie, mais s'il se disait aussi, se pensait aussi, se vivait aussi grandement par les images. Il y a donc, depuis 1800 ans, une mise en forme de Dieu, une mise en image de Dieu. Il y a donc une histoire de ces images et une histoire de cette mise en forme. D'où la conviction de notre invité, je le cite, « Le christianisme latin est le seul des trois monothéismes qui est toléré, puis accepté, légitimé, suscité et pratiqué une formidable galerie de portraits du Dieu unique. » François Bosluck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain depuis 45 ans, spécialiste reconnu de l'histoire des images chrétiennes, docteur en Sorbonne et professeur depuis 35 ans à l'Université de Strasbourg. Et vous avez une double conviction. D'une part, que les questions de Dieu exigent d'en passer par l'image, et d'autre part, que les images de Dieu, le Père et de la Trinité sont, dites-vous, les plus litigieuses, les plus discutables et donc les plus intéressantes. Vous êtes l'auteur d'une somme devenue presque aussitôt classique, « Dieu et ses images », parue chez Bayard en septembre 2008, et une seconde édition vient de paraître, plus compacte, augmenter un tout petit peu, c'est un gigantesque travail, une forme d'hallucinante synthèse, à la fois qui maîtrise ses sources et à la fois qui donne à voir et à comprendre cette formidable aventure iconique de Dieu, selon votre expression, et donc des différentes manifestations de Dieu dans l'histoire. Et en plus de ce livre, donc Dieu et ses images chez Bayard qui vient de reparaître, en plus de ce livre, vous venez de faire paraître un livre d'entretien, toujours chez Bayard, avec Bérénice Levet, « La pensée des images », dans lequel vous retracez un peu votre itinéraire et surtout les différentes étapes de cette image de Dieu dans l'Occident. Donc, votre entreprise, donc ce Dieu et ses images, est, semble-t-il, sans équivalent. À la fois, vous couvrez ces 1800 ans de visibilité et d'apparition de l'image de Dieu, d'une part. Il y a dedans, je le précise, 300 images. Et cette entreprise-là, saluée tout de suite par, en particulier, Régis Debray, a permis à beaucoup d'entrer dans cette visibilité de l'image de Dieu. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, que nous commencions par la fin, c'est-à-dire par cette disparition à partir du XXe siècle de cette représentation de Dieu. Vous dites qu'il y a là un tournant, un événement majeur de l'histoire de la civilisation d'inspiration chrétienne, et les historiens n'en parlent quasiment jamais. Et vous faites même remonter cette disparition, cette mort iconographique de Dieu, dès 1680. Alors, d'une part, pourquoi ce tournant est-il majeur? Et qu'est-ce que ce tournant nous a retiré?
Il nous a retiré quelque chose comme une nourriture de l'imagination, dont peut-être la pensée, la prière, la vie religieuse, la vitalité mentale, si vous voulez, des populations occidentales souffrent maintenant d'être privées. Bon, alors, c'est une thèse, si vous voulez, que je formule là, c'est que ces images, loin d'avoir été simplement, au fond, décoratives ou platement pédagogiques, elles ont nourri très profondément la conscience des Européens. Je dirais presque qu'elle les a structurées, vous voyez. En particulier, je pense que la plupart de nos contemporains, encore aujourd'hui, encore 50 ans ou 3 siècles après la disparition de la figure de Dieu le Père peinte par les grands artistes, en sont encore imprégnés. Walter Benjamin parlait, je crois, de l'incrustation des figures dans la rétine. Autrement dit, ces images, si vous voulez, elles restent structurantes, même si, au fond, plus aucun grand artiste à la mode, vous voyez, se saisit de l'idée presque étonnante maintenant de peindre Dieu le Père ou la Trinité. Bon. Et c'est cela qu'elles ont apporté, c'est une sorte de contrepoint nourricier, je dis bien, je maintiens cette métaphore de la nourriture, à la pensée discursive, à la pensée verbale, si on veut bien distinguer avec moi, et beaucoup d'autres, comme Pierre-Franck Castel l'ont dit, il y a le cerveau droit, il y a le cerveau gauche, c'est-à-dire les mots de la foi, c'est une chose, le credo, la liturgie, bon, mais l'esprit humain, parce qu'il est lié à notre affectif, à notre sensibilité, il a besoin, au fond, de manger une autre nourriture que celle des mots et des idées et des concepts. Voilà. Et c'est cela que, en Occident, grâce au fond à la liberté que l'Église a reconnue aux artistes, des générations et des générations de croyants ont trouvé dans les images de Dieu.
Et est-ce que ça veut dire pour vous que nous sommes devenus une civilisation hémiplégique, c'est-à-dire que nous ne marchons que à l'écrit par opposition à l'image, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de déliaison, de séparation avec l'idée de Dieu qui s'est manifestée par l'image et on recourt à des images antérieures qui sont celles du passé?
Voilà. Alors, hémiplégie, c'est une image un peu forte. Je pense que c'est plus subtil. C'est-à-dire que, pour une part, la plupart des courants intellectuels et des individus boitent légèrement, si vous voulez. C'est une sorte de fragilité de notre locomotion psychique et intellectuelle, en ce sens que, effectivement, nous n'avons plus tellement d'images vivantes, actuelles, dans lesquelles nos générations sont profondément impliquées et qui nous touchent parce que c'est nous croyant en Dieu tel que peint par des gens qui nous interprètent bien. Alors, du coup, effectivement, nous avons recours, beaucoup d'ailleurs, à des images du passé. Par exemple, je suis frappé d'un phénomène qu'à peu près aucun sociologue n'a jamais étudié et qui est pourtant massif. À partir de 1972, du fait de la disparition dont nous parlons, l'icône de la Trinité de Roublev s'est infiltrée, sans violence d'ailleurs, mais subrepticement au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur la pointe des pieds, sans autorisation ni décision, vous voyez, dans la plupart des églises catholiques. Et s'est installée en bonne place, c'est-à-dire devant les autels, sur les chaires à prêcher, dans les chapelles où les dames du chapelet, si vous voulez, le récitent pieusement devant l'icône. Bon, c'est quand même un phénomène étrange. Mais ça prouve que cette nourriture étant nécessaire, on est allé rechercher ailleurs, bon, en tout cas dans le passé, puisqu'elle date, je crois, des années 1420, vous voyez, l'icône de Roublev, bon, et beaucoup de chrétiens actuellement s'en nourrissent.
Alors, je disais hémiplégie parce que dans le regard que vous jetez sur les images, vous dites, je vous cite dans ce livre d'entretien, donc La pensée des images, vous dites « L'humanisation de l'existence passe par la vie avec les images. » Donc il y aurait quelque chose qui serait du côté de la pensée et de l'écrit, peut-être un peu dur, un peu abstrait, et d'autre part, un peu sec, et d'autre part, une humanité, une humanisation, quelque chose qui a un rapport avec la vie douce, la tendresse peut-être, qui est liée aux images.
Oui, ça se vérifie d'ailleurs beaucoup dans nos vies conjugales, dans nos vies amoureuses, dans nos vies familiales. C'est-à-dire que les photos de famille, les photos de ma chérie, de ta chérie, de ton poulet, etc., sont toujours le lieu d'une émotion, si vous voulez, d'une affectivité permise et, je peux comment dire, qui se libère, qui se lâche. Bon. C'est là où nous ne parlons plus affaires, nous ne sommes plus confrontés, j'allais dire, à la dure réalité quotidienne et qui va faire ceci, qui va aller chercher les enfants, mais c'est le lieu d'une émotion stabilisée, vous voyez. Et du coup, l'arrêt sur image affectueuse de la famille et des époux et je crois, bon, alors, ça peut se transposer. C'est une sorte de loi de l'affectivité, de la sensibilité humaine qui, à mon avis, est valable dans les relations avec le Tout-Puissant. Nous avons aussi besoin, je crois que peu de religions s'en sont passées dans l'histoire humaine, de figuration de Dieu qui puisse être le lieu de l'expression de tout l'homme, et pas simplement de sa pensée ou de son ralliement sociopolitique à une religion pour des raisons sociologiques. Mais non, de son émotion religieuse. Vous voyez, bon. Et je crois que les images servent à ça.
Parce qu'effectivement, donc, pour reprendre ce que vous disiez, donc, l'image serait donc une émotion stabilisée, donc quelque chose qui donne accès à ce qui, dans la religion ou dans la compréhension de Dieu et de l'ordre de l'émotion, voilà, par opposition donc à l'écrit, à la théologie, au discours.
Voilà. Alors, je ne voudrais pas faire une opposition dualiste, mais je dirais volontiers, si vous voulez, que le credo et le dogme est clair, l'image touche. Bon, alors, vous me direz, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des expressions verbales qui me touchent, bon, et il y a des images qui sont profondément éclairantes. Mais grosso modo, il y a une sorte de répartition des tâches, si vous voulez, entre l'image et le concept, et je pense surtout qu'il ne faut pas les opposer, c'est-à-dire le concept gagne grandement à se confronter, à s'adosser au fond à un panorama d'images, de la même façon que des images qui ne seraient pas pétries de lumière intellectuelle et de concepts, mais nous ne pourrions pas les regarder très longtemps, elles nous tomberaient des mains, ou des yeux, vous voyez, elles n'auraient aucun intérêt. Or, souvent, les images en Occident ont été très profondément pensées, pas toutes, hein. Il y en a une quantité qui sont, qui ont un QI un peu déficient, bon. Mais il y en a beaucoup qui sont très pensées. Et par ailleurs, le langage de la Bible, du credo et du dogme sont eux-mêmes pétris de représentations plus ou moins iconiques. Par exemple, vous ne pouvez pas lire le prologue de Saint Jean sans vous dire que c'est truffé de références spatiales. Bon, donc entre les deux, le monde du concept et le monde de l'image, non seulement il doit y avoir des échanges, mais au fond, ils sont faits l'un et l'autre, l'un pour l'autre, vous voyez, parce que le prologue de Jean, quand il nous dit « et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, proston théon », il y a l'idée qu'ils sont à côté l'un de l'autre, déjà, dans les mots, vous voyez. Et du coup, ça va déboucher sur des images. Il n'y a pas, si vous voulez, d'antinomie native entre ce que fait l'image et ce que dit le concept. L'image ne trahit pas, comme on l'a souvent dit, les mots. Au contraire, elles exploitent leur potentialité.
Et justement, c'est ce qui est frappant, c'est que quand on regarde ces multiples images de l'art chrétien en Occident, il y a pour la plupart du temps des variations. Il y a 4, 5, 6, 7 scènes originelles et à partir de là, il y a des variations. Alors, vous vous dites qu'il y a deux façons de considérer les choses, celle de la cohérence et celle de l'incohérence. La cohérence, dites-vous, et vous référez à Hannah Arendt, c'est le mensonge. La cohérence, c'est le mensonge. Et d'autre part, il y a une pluralité de représentation. Et la pluralité de représentation dit sans doute à la fois cette vérité insaisissable et à la fois la multiplication des approches ou des compréhensions
Exactement.
Possibles.
Et donc l'appropriation que chacun a tenté voilà. de faire d'une vérité de la foi ou d'une image qu'il a touchée. Nous vivons cela constamment d'ailleurs. Lorsque dans une réunion, quelqu'un dit « je vais essayer de redire avec mes mots ce que tu viens de nous dire ». Bon, on voit bien qu'il va y avoir un décalage, mais ce décalage, il est non seulement vivant, mais il est nécessaire. C'est que chacun de nous ne comprend l'autre qu'au prix d'une espèce de digestion où il ajoute de soi. Bon, alors c'est ce qui explique, si vous voulez, l'infinie variation qu'on constate dans l'histoire iconique de Dieu, c'est qu'au fond, chaque génération, en reprenant, en recevant une représentation qui l'a touché, bon, y a ajouté du sien, a rhabillé Dieu à sa façon. Et c'est très frappant, mais c'est parfois même tout à fait pittoresque quand on voit, par exemple, ce que donnent des images exportées lors de la grande expansion missionnaire de l'Europe dans la seconde moitié du XVIe siècle, de ce qu'elles donnent, dis-je, au Pérou, au Mexique, au Chili, etc. Ou alors vous voyez tout un, je sais pas comment dire, un vestiaire de là-bas dont on a revêtu les figures divines en les dépouillant de leur vestiaire occidental. Bon. Et c'est normal, c'est-à-dire c'est une opération qui est passionnante, c'est l'appropriation active que fait une génération ou un pays ou un continent de figures qui viennent d'ailleurs.
Alors, ce qui est neuf dans votre entreprise, c'est que d'une certaine façon, vous considérez qu'il y a là un ajout successif, alors que, dites-vous, les théologiens et les pères de l'Église, pour commencer par le commencement, se sont méfiés des images. On considérait que l'image, elle était un peu trompeuse, qu'on pouvait chacun dire un peu ce qu'on voulait, qu'elle n'avait pas l'imprimature de la chose
écrite. Et d'une certaine manière, ça continue. Ça continue, c'est-à-dire je pense que la plupart des théologiens occidentaux et même des systèmes d'enseignement de la théologie dans les instituts catholiques et les facultés de théologie en Europe considèrent qu'une fois qu'on aura créé des chaires de Bible, de dogmes, de théologie morale, et que tout ça sera assuré, alors peut-être on pourra se soucier d'enseigner l'iconographie chrétienne. C'est la cinquième roue du carrosse, vous voyez. Bon. Et cela vient de très très haut, puisqu'à mon avis, cela vient du passage, si vous voulez, du message évangélique, de catégories, disons, plutôt sémitiques, à des catégories plutôt hellénistiques. Et du coup, les expressions qualifiée de la foi chrétienne devenue doctrine avec des Clément d'Alexandrie et des Tertulliens, bon, héritant des catégories grecques, au fond a hérité par le même coup d'une sorte de condescendance un peu méprisante pour tout le monde de l'image qui s'exprime chez Platon, qui se redit chez Plotin, chez tous les néoplatoniciens et qui s'exprime magnifiquement dans le livre d'Olivier Boulnois, hein, au-delà de l'image, c'est-à-dire tous les discours sur l'image qui ont été tenus dans l'Occident aussi bien qu'en Orient jusqu'à la Renaissance sont des discours, comment dire, réservés quand ce n'est pas réticent. Oui. Mmh. Parce que l'image est maîtresse de tromperie, c'est un peu illusoire, et qu'au fond, la vie spirituelle, comme la vie intellectuelle, doivent apprendre à juguler son pouvoir attractif, quand ce n'est pas à la mettre complètement à l'écart.
Oui, donc vous dites que le double héritage chrétien, qui est à la fois un héritage juif, donc oui. de non-représentation, oui. d'une part, et un héritage grec qui, comme vous le dites pour Platon, laisse à supposer que les images sont trompeuses, a infiltré, d'une certaine façon, oui. la conscience occidentale et donc a conduit à une méfiance. Alors justement, vous dites, vous, que les images, je vous cite, ne nous parlent pas d'un autre Dieu que celui des théologiens, ce que les théologiens, sans doute, si j'ai bien compris, ont cru ou croient encore depuis longtemps, mais elles nous en parlent autrement. Alors quel est justement cet autrement de la théologie visuelle, enfin, ou de la façon de comprendre Dieu par l'image ?
Pour vous répondre synthétiquement, je dirais qu'on peut distinguer ici, parmi les milliers d'images de Dieu et de la Trinité qui ont été fabriquées, ou en tout cas tolérées en Occident, il y a deux grandes catégories au fond. Vous avez les images qui jouent plutôt sur des symboles abstraits, mettons le triangle, le cercle, la main, le trône vide et tout. Bon. Alors, ces images-là, au fond, seraient presque les plus fidèles à la théologie qui nous enseigne très classiquement que, au fond, Dieu est au-delà de toute représentation, qu'il échappe à notre prise, en tout cas à l'imagination, et qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut en dire, sauf Dieu en Jésus, puisque là, Dieu s'est rendu visible en son Fils, Jésus de Nazareth. Bon. Alors, on pourrait dire que, si vous voulez, au fond, j'en reviens à mes deux catégories, vous avez d'une part les images qui jouent sur des symboles abstraits qui sont fidèles à cette réserve des théologiens à l'égard de tout ce qui peut être dit et montré de Dieu, et puis il y en a d'autres, alors assez nombreuses, qui, au fond, dans le droit fil de ce que l'incarnation permet d'entrevoir, à savoir que Dieu s'est humanisé en Jésus, ou Dieu s'est rendu visible en Jésus, exploite à fond la métaphore anthropomorphe, c'est-à-dire ose explorer ce qui de Dieu peut être dit à la condition d'en faire des figures humaines, de lui donner une allure humaine. Bon. Et c'est allé très très loin. C'est allé très très loin parce qu'on a fini par, au-delà, si vous voulez, de Dieu en Christ, on a fini par représenter Dieu le Père comme un homme d'allure âgée, parfois même avec les marques de l'âge assez sensibles, c'est-à-dire des rides au front, une certaine calvitie, le dos voûté, un air un peu fatigué.
Un grand-père, quoi.
Un grand-père, voilà. Avec tous les risques que ça suppose. C'est que, évidemment, que lorsque Dieu est appelé père, ça n'autorise pas l'imagination de chacun de gambader en direction d'une espèce de grand-père au ciel qui nous surveille comme un flic ou comme un gentil papa un peu gâteux. Non. Et à chaque fois, il faut se souvenir que cette métaphore Dieu-Père, c'est une façon de dire. Ça n'est jamais qu'une façon de dire. Bon. Et qu'entre les pères que nous avons eus les uns et les autres, et puis le Père du ciel, il y a quand même un abîme. Bon. Et en même temps, il est bon de suivre la métaphore. Bon. Aussi bien dans la prière, parce que seul un Père donne envie qu'on lui parle. Et on a besoin de lui, on a besoin de s'adresser à lui, on a besoin de lui adresser des demandes, ou de le remercier d'être en vie, tout simplement. Et en peinture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au fond, il y a presque autant d'inconvénients à vouloir absolument s'en passer à tout jamais qu'à en faire. Alors, le christianisme occidental a estimé qu'au fond, on pouvait faire du chemin, à la fois intellectuellement et spirituellement, religieusement, avec les images anthropomorphes de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a laissé se développer, au fond, toute cette galerie d'images de Dieu, là où d'autres parties, si vous voulez, de la planète chrétienne, le christianisme oriental n'a pas trop aimé, quoi qu'il en ait, beaucoup plus qu'ils ne veulent bien se l'avouer. Et surtout, le judaïsme et l'islam ont toujours estimé, à contrario, que c'était plus un piège qu'autre chose, et que la vie spirituelle gagne à s'en passer complètement, une fois pour toutes. Et même en christianisme, il y a eu des gens comme Calvin pour penser que, oui, il vaut mieux s'en passer complètement et définitivement.
Et donc, vous vous dites que cet autrement-là a des pièges, oui. a des risques, oui. parce que justement, ce qui est, vous dites, dire Dieu le Père, c'est une façon de parler,
oui.
bon, mais le visualiser peut induire une erreur plus grande que ce que l'écrit laisse à supposer, parce qu'on le voit, d'une certaine façon, on le voit. Voilà.
Oui.
Donc, cet autrement-là dont vous parlez, cette autre façon de parler de Dieu par l'image, ce serait donc une façon de quoi ? De toujours d'humaniser, de rendre proche,
oui.
De proximiser, enfin si je peux
oui, de proximiser, de visualiser ce qui en Dieu donne, accueille, protège, suscite la confiance. Et ça, c'est capital, si vous voulez, parce que qu'est-ce que serait une vie religieuse qui ne débouche pas sur une certaine louange pour ce qui est donné, mais le don simplement de, voilà, de l'existence. Je vois depuis vos fenêtres là, le soleil sur la Seine, mais c'est merveilleux, vous comprenez. Bon, quelqu'un qui n'accède pas à l'action de grâce, je le plains, il y a quelque chose qui va lui manquer toute sa vie. Bon, or, les images de Dieu, au fond, facilitent l'action de grâce, suscitent et stimulent la confiance, la demande, peut-être même la contestation, le rejet. Je me sens très proche des rabbins, vous savez, mis en scène par Martin Buber dans les récits hassidiques, où les rabbins montent au ciel pour engueuler Dieu. Bon. Mais c'est encore une façon, si vous voulez, de le reconnaître comme tel et de lui parler. Bon. Les images facilitent ça. Les images suscitent, de la part de l'humain, une sorte de réactivité, de phénomène de langage qui est l'essence de la religion. L'essence de la religion, c'est quoi ? C'est parler à Dieu, louer Dieu, attendre de Dieu, etc. Bon. Les images facilitent prodigieusement ça, puisqu'elles nous placent dans une espèce de rapport qui a une allure intersubjective. J'ai quelqu'un en face. J'ai pas un mur en face, vous comprenez ? Il m'arrive de dire même, je sais pas si c'est tout à fait justifié, mais enfin ça me parle à moi, que, au fond, le Dieu du christianisme n'est pas un mur. C'est une figure qui a une poche, qui a un manteau où on peut venir se nicher. Bon, d'ailleurs, c'est dit dans le prologue de Saint Jean dont je parlais tout à l'heure. Le Fils qui est dans le sein du Père, en kolpoi tou patrou en grec. Bon, il est dans le pli du manteau, parce que c'est le mot grec, comme le mot d'ailleurs latin sinus, veut dire ça. Alors l'image, si vous l'exploitez, cette intuition que le Dieu chrétien, auquel les fidèles sont entraînés à croire, à la suite du Christ, de manière absolument filiale, confiante, eh bien, c'est un Dieu qui a des possibilités d'accueil, sur les genoux duquel on va pouvoir venir s'asseoir, d'une certaine manière. Bon. Voilà ce qu'apporte l'image. Voilà sa façon, si vous voulez, de parler autrement de Dieu. C'est-à-dire, elle nous en parle autrement que comme l'éternel, comme ça, dans son ciel, qui a toutes sortes de valeurs, créateur, sauveur, rédempteur, etc. Bon. Non, elle nous en parle comme de quelqu'un à qui on peut parler. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on voit bien, effectivement, dans votre livre. C'est à la fois une actualisation et une variation. Et que cette variation suppose des surcroîts d'intelligence, de compréhension de l'intelligence. Et vous dites,
oui.
Donc il y a quatre opérations d'exégèse picturale, c'est-à-dire de commentaire de l'image, donc de la scène d'origine, et vous donnez quatre éléments, et on peut revenir dessus si vous voulez. Un, la sélection. Deux, la composition, c'est-à-dire comment est-ce que les objets sont composés. Trois, l'animation, c'est-à-dire créer des liens entre tout ça. Et quatre, l'enrichissement, c'est-à-dire de rajouter, vous prenez l'exemple de l'hôtelier dans l'auberge d'Emmaüs, enfin de rajouter des éléments. Donc, est-ce que, d'une certaine façon, ce que vous avez, vous, étudié depuis 35 ans, est-ce que ce n'est pas justement cette exégèse picturale, c'est-à-dire ce surcroît d'intelligence, d'une autre intelligence que celle des théologiens livresques, dirions-nous ?
J'ai étudié ça et encore autre chose dont nous parlions juste avant. Si vous permettez, je vais faire un tout petit dégagement. Vous me demandiez comment, au fond, l'image se montre apte à parler de Dieu autrement. Bon, je dirais de deux façons. Premièrement, par la création de figures synthétiques qui ne sont pas l'écho d'un texte précis dans la Bible et qui opèrent cette double opération de proximisation, c'est-à-dire ça rend Dieu proche et ça suscite quelque chose comme une réaction possible et humaine de la part des fidèles. Bon. Donc une proximisation et suscitation par des images synthétiques sans lien direct avec la Bible. Les quatre opérations dont vous parlez, elles se rapporte à l'image en tant qu'elle fait écho au texte biblique. Bon. Et en tant que la peinture, par exemple, de Moïse au buisson ardent, ou de Abraham recevant les trois anges, ou d'Ézéchiel voyant la gloire de Dieu, etc., ou de Jésus faisant les miracles à Cana, bon, ça apporte quelque chose que les exégètes de métier, qui sont des philologues, qui sont des historiens des littératures du Proche-Orient ancien, n'apportent pas. Parce qu'il ne se situe pas du tout comme un peintre se situe, en dire qu'est-ce que je vais pouvoir montrer de la scène racontée. Bon. Et les quatre opérations que vous avez rappelées, là, que je fais miennes.
Qui sont vôtres.
Mais voyez, vis-à-vis desquelles, au fond,
je reprends ce que vous avez dit.
Je pense toujours que c'est à peu près cela qu'on peut appeler l'exégèse picturale, c'est-à-dire l'image. En plus de livrer des images synthétiques. Je viens de le rappeler. Par exemple, la Vierge à l'enfant. C'est une image qui n'illustre pas un texte précis. C'est une image fondamentale du christianisme. Ou le Christ en croix. Bon, vous me direz, oui, alors là, ça renvoie quand même à un épisode particulier. Oui, mais la plupart des crucifixions ne renvoient pas à un moment précis de ce qui s'est passé au Golgotha. C'est une image synthétique. Bon, il y en a comme ça un certain nombre. En plus de cela, l'image, alors, s'est livrée dans l'histoire de l'art occidental, au fond, à la création d'une sorte de deutéro-bible, une seconde bible, vous voyez, en ce sens que elle a re-raconté tout ce que la Bible raconte. Bon. Et elle l'a fait d'une façon qui, loin d'être une espèce de plate illustration passive, si vous voulez, de ce que les rédacteurs de la Bible racontent, de manière très originale. Parce que, justement, ces opérations sont obligées de sélectionner dans ce qui est raconté un épisode, un geste. Bon. C'est souvent un geste. Bon. On voit, pour reprendre Moïse au buisson ardent, Exode 3, Moïse se détournant, frappé de stupeur parce qu'il voit ce buisson qui brûle sans se consumer. Bon. Ou bien Moïse se déchaussant. Ou bien Moïse mettant la main devant les yeux de peur que sa vue ne soit mais pulvérisée par la vision du divin. Ben, à chaque fois, l'artiste, si vous voulez, il doit, pour organiser sa toile, faire choix d'un geste organisateur autour duquel son image va se composer. Bon. C'est une chose très intéressante parce que le rédacteur, lui, n'a pas stabiloté son texte en disant, voilà, en jaune, ce qui est très important, en bleu, j'ai mis ce qui est un peu moins important. C'est à l'artiste de faire ça. Bon. Et souvent, c'est une opération dont nous ne savons rien. Ça s'est passé dans sa tête, d'accord peut-être avec le commanditaire ou d'accord avec le destinataire de l'image, mais c'est là où tout ce processus d'appropriation, si vous voulez, par une génération ou par des individus, se joue. C'est-à-dire, je prends le récit du buisson ardent et j'en fais mon affaire en faisant ma sélection de ce qui compte à mes yeux. Par exemple, comment Moïse et Dieu se sont-ils parlé au buisson ardent? Est-ce qu'ils étaient proches, est-ce qu'ils étaient loin, est-ce que Dieu était debout, assis, est-ce qu'il apparaissait un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Bon. C'est au peintre de nous dire comment il voit la chose. Bon. Et très souvent, le peintre livre une version du texte particulièrement habitable pour les gens de sa génération. Et c'est pour ça qu'on aime sa peinture. Et c'est pour ça qu'on le paye pour qu'il fasse ces choses-là, vous voyez.
Alors, je voudrais qu'on essaye de me passer de l'autre côté d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, vous nous parlez effectivement des peintres, de ceux qui ont peint, qui ont réussi cette opération synthétique, dirions-nous, de se référer au texte d'origine d'une part, la scène dont il est question, et en même temps d'agglomérer, de synthétiser, d'attraper un air du temps, si on veut. Voilà. Oui. Mais passons de l'autre côté qui est vous, c'est-à-dire le regard, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons voir une image. Vous travaillez depuis 35 ans, je l'ai rappelé sur ces sujets-là, vous avez vu des milliers d'images, vous en voyez, vous en les revoyez, re-revoyez. Comment passe-t-on de votre côté à vous, il y a une forme d'éducation à l'image, comment passe-t-on, pour reprendre la définition de Maurice Denis, d'une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, à quelque chose d'autre ? C'est-à-dire quelque chose qui, quoi, fait sens, aide à vivre, humanise, etc. Comment est-ce que vous, quand vous êtes confronté à une image, quelle qu'elle soit, comment est-ce que vous regardez l'image ?
J'essaye d'abord de me défaire de ce que je sais, c'est-à-dire regarder, ça n'est pas projeter, si vous voulez, sur la surface ou sur le volume sculpté, toutes les idées ou tous les soucis que vous avez dans le moment. Bon. Et je crois que pour regarder bien, il faut commencer par faire un peu le vide en soi, de la même façon que pour écouter bien quelqu'un. Voilà, je lui ménage en moi un espace d'écoute, je sais pas, neutre, accueillant, mais un peu débarrassé de toutes mes préoccupations du moment, sinon je ne l'écouterais pas. Bon. Et très souvent, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les gens ont un mal fou, parce que je fais parler mes étudiants dans les tableaux, de temps en temps, j'apporte une bonne reproduction, faute de pouvoir apporter l'original, et je les fais parler l'image. Bon. Et ce qui me frappe, c'est que la plupart du temps, il se précipite sur ce qu'il croit savoir de la signification des formes qu'il perçoit. Et ils ont un mal fou à rester, j'allais dire, au niveau des percepts. Bon, c'est-à-dire, je vois une toile organisée surtout autour de deux personnes qui se parlent, l'espace alentour du paysage est constitué comme une sorte d'écrin paisible autour de cet entretien qui a l'air très important. Bon, oui, commencez par quelque chose d'assez neutre où vous décrivez le schéma de composition, les principaux motifs, le fond de toile. Bon, mais c'est par là, j'allais dire, que l'œil apprend l'exactitude respectueuse, comment dire, objective, parce que sinon, sinon vous projetez toutes sortes de choses dans l'image, vous n'avez pas pris seulement le temps de la regarder. Bon. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure que vous fréquentez des images, se forme en vous une espèce de rapidité, de familiarité, parce que vous connaissez les images, vous savez les ranger, les classer. Et cette opération du classement des images en sujets, vous voyez, est une discipline que je trouve absolument prodigieuse, même pour la vie intellectuelle, et même pour la vie sociale et affectueuse. Et ça aide de dire qu'il s'agit plutôt d'une scène religieuse, ou il s'agit plutôt d'une scène, disons, de propagande politique, ou il s'agit plutôt d'une image de dérision et de provocation. Bon, vous voyez, petit à petit, ranger les images dans des catégories qui aident à leur interprétation, savoir repérer les textes dont elles s'inspirent. Bon, évidemment, ensuite, bon, les styles, etc. Mais ça ne se fait que dans un second temps. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'on ne regarde bien qu'à force de regarder. Le regard intelligent sur une image est toujours le résultat de beaucoup de patience dans l'art de regarder, de prendre du temps pour en regarder. Je recommande à beaucoup de gens qui ont du temps, qui ont de l'intérêt pour ces questions, de constituer par exemple des dossiers. Nous parlions tout à l'heure, avant de commencer l'émission, de la formidable et talentueuse séance de Baudiquet à l'Ermitage devant le retour du prodigue de Rembrandt. Bon. Mais c'est absolument passionnant de faire un dossier autour de ce sujet. Bon, je l'ai fait, je ne peux pas vous en parler. Bon, et on voit beaucoup mieux quelle est l'originalité de la toile de Rembrandt quand on l'a comparée à d'autres peintres qui ont essayé de peindre ce sujet. Bon. Et plus vous avancez dans la comparaison, plus l'originalité de chaque réalisation artistique apparaît de manière, mais avec plein de relief. Bon. Et la règle d'or, si vous voulez, pour bien regarder, c'est non seulement d'avoir pris le temps de regarder cette image-là, mais ensuite de l'avoir remis dans cette espèce de milieu amniotique ou de famille d'images. Vous savez, je suis un peu saussurien sur les bords, c'est-à-dire un mot de la phrase s'oppose bon, à des syntagmes, à d'autres mots, et c'est dans l'intérieur d'un certain volume de mots qu'un mot prend son sens. Bon, eh bien, il faut souvent réinsérer une image dans un certain volume d'images, des images comparables, des images différentes, des images... Bon. Et là, alors, pour le coup, à chaque fois, l'image va dire son originalité.
Parce que ce qui s'est peut-être le plus perdu, parce qu'on avait parlé au début de notre entretien de cette mort iconique, enfin iconographique de Dieu, ce qui s'est peut-être plus perdu, c'est une question que je vous pose, c'est peut-être l'éducation du regard quant à cette familiarité vis-à-vis des images, de ce qu'elles disent, de ce qu'on est capable de dire. Et vous vous dites, il y a deux choses qu'il faut retenir. Un, la nécessaire virginité du regard, surtout pour vous, surtout pour des gens qui sont habitués à en voir des dizaines, des centaines et des milliers. Virginité du regard, qu'est-ce que je vois plus que ça, je le connais, c'est une scène, c'est la naissance de Jésus, c'est cela. Bon, d'une part. Et deuxièmement, ce classement, ce reclassement, cette insertion à l'intérieur d'une histoire, d'une scène, d'autres représentations.
Alors, est-ce que vous m'autorisez à donner un troisième conseil?
Bon. Au contraire, vous êtes là pour ça.
Non, parce que maintenant, j'y pense, si vous voulez, tout ça est un peu improvisé. Le troisième conseil, c'est de ne pas ajouter foi aux gens qui disent que la peinture ou la sculpture n'a pas besoin de mots. Bon, ou que nous, dans notre art de regarder les choses, au fond, nous pourrions nous dispenser, pour rentrer dans l'œuvre, de chercher laborieusement et parfois péniblement les mots qui la décrivent. Bon, moi, je pense au contraire que tant qu'on n'a pas buté sur l'extraordinaire pénibilité même, les premières descriptions que l'on fait, c'est pénible, on peine. Bon. Mais il faut accepter de peiner, et je pense que nous regardons, si vous voulez, les œuvres d'art et le visuel en général à travers le filtre des mots. Bon. Et tant que nous n'avons pas pris conscience des mots qui sont comme des écrans, si vous voulez, des lunettes colorées entre nous et l'œuvre d'art, à mon avis, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Tandis que si nous faisons l'effort de dire « il me semble que la toile est constituée comme ceci » ou « cette sculpture a ceci pour sujet » et « ce qui m'étonne, c'est que », etc. Tant que vous n'avez pas fait ce travail sur vos mots face à l'œuvre, quelque chose ne se produit pas.
Alors je reprends, pour abonder dans votre sens, ce que vous dites donc dans ce livre d'entretien. Quand vous dites « nous sommes sommés par l'œuvre de prendre la parole comme le monde réveille le poète ».
Oui.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement non seulement voir, mais aussi, troisième conseil, mettre en mots.
Oui.
Avoir un discours,
oui.
Tenir un discours.
Tenir un discours, l'œuvre est en attente de discours successifs sur elle, ça fait partie de l'appropriation de l'œuvre. Bon, et d'une certaine manière, nous sommes aussi en attente de l'art de dire le monde. C'est-à-dire que notre regard sur les œuvres d'art n'est au fond qu'un cas particulier, particulièrement éclairant, je crois, de notre rapport au monde. Bon. Et si nous apprenons à bien dire l'œuvre d'art, à mon avis, nous nous préparons, mais tout simplement à vivre bien le monde qui nous entoure. Bon, réagir comme des êtres parlants, tous les philosophes en sont d'accord, le propre de l'homme, c'est justement de dire le monde, et tant qu'il n'a pas... Bon, alors, je trouve que l'œuvre d'art est un lieu parfait d'exercice de l'art du dire chez les humains, qui les humanise.
Voilà. Alors, nous allons donc arrêter ce premier entretien que nous avons eu avec François Bosflug autour de Dieu et ses images, et je renvoie donc nos auditeurs à un second entretien que nous aurons avec François Bosflug, pour rentrer plus avant dans ce texte, dans cette histoire iconographique de Dieu autour de son ouvrage.